France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, génération identitaire attaque à l'arme blanche. Le 3 mars dernier, le Conseil des ministres a dissous une association du nom de génération identitaire. Cette association, c'est un mouvement d'extrême droite fondé en 2012 avec comme postulat l'identité blanche européenne est en péril. Ses ennemis, l'immigration et l'islam. Son idéal, la remigration, néologisme, qui veut dire expulsion de tous les individus d'origine extra-européenne. Comme ça, c'est clair. Mais génération identitaire, ce n'est pas l'extrême droite façon skinhead et salut fasciste. Non. Aux bombeurs noirs et aux crânes rasés, ces jeunes gens préfèrent les chemises blanches et les cheveux bien coiffés. De sorte qu'en apparence, ils sont respectables et bien élevés. Mais si la forme s'est arrangée, polissée, normalisée, le fond, lui, reste le même, raciste, violent. Oh, ils ne sont pas très nombreux, 3000, tout au plus. Ils ont pourtant réussi à faire parler d'eux et à devenir un réservoir dans lequel le Rassemblement National recrute et construit sa nouvelle génération. Notre invité aujourd'hui, Jean-Yves Camus, politologue, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'extrême droite, auteur avec Nicolas Lebourg du livre intitulé « Les droites extrêmes en Europe », publié en 2015 au Seuil. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Moi, je m'appelle Jean-Gabriel Ravary. J'exerce le métier de guide de haute montagne depuis 42 ans aussi. Donc là, tu vois, là, je m'arrête exactement à l'endroit où cet hiver, on a vu un gros groupe, globalement d'hommes, super bien habillés, des vestes bleues ciel, des belles doudounes, il y avait des 4x4, on s'est dit tiens, encore un trail, encore un séminaire, encore un événement, et en fait, comme événement, c'était les identitaires qui s'installaient, quoi.
Avril 2018, Hautes-Alpes. Sur la route étroite qui monte au col de l'échelle, une colonne de voitures roule vers la frontière italienne. En tête de file, trois Toyota blanches montrent la voie. Sur leur capot est imprimé « Defend Europe ». Défendre l'Europe. Sur les ailes des deux premières, deux bannières flottent au vent avec le même logo et une file de voitures les suit. Le cortège s'arrête au bord de la route. Une centaine de jeunes vêtus de doudounes bleues descendent et s'enfoncent dans la forêt en portant chacun quelque chose. Des poteaux, des rouleaux en plastique et une longue bâche rouge en queue de peloton. La procession s'arrête un peu plus haut. On lève deux petits chapiteaux, on plante les poteaux, on agrafe les filets en plastique et on déroule sur la neige la bâche rouge qui affiche un message en anglais. Frontières fermées, vous ne ferez pas de l'Europe votre maison, pas question, rentrez chez vous. Le col de l'échelle est un passage emprunté par des hommes et des femmes arrivés clandestinement d'Afrique. Et c'est cet endroit que Génération Identitaire a choisi pour son nouveau coup médiatique. L'un d'entre eux est au micro des Pieds sur Terre sur France Culture.
Un soir, on était en place au niveau du col de Montgenèvre. On avait arrivé au loin un groupe de migrants clandestins. Donc on avait le numéro du poste frontière, dès qu'on les a repérés, on a appelé le poste frontière pour leur signaler qu'il y avait des clandestins qui tentaient la traversée et pour qu'eux, de leur côté, puissent prendre la décision d'aller intervenir.
Vous, à aucun moment, vous avez dialogué avec des migrants ?
Non. Sur les chemins de randonnée, en fait, savoir que les passeurs, les associations vont disperser des vêtements pour indiquer le chemin aux clandestins qui traversent. Nous, notre but là-dessus, ça a été de supprimer toutes ces balises, d'aller les nettoyer pour que ces passages ne soient plus marqués, ne soient plus accessibles.
Ils ont également loué deux hélicoptères et un petit avion. Et tout est photographié, filmé, partagé. Des clandestins, il n'est même pas certain qu'ils en aient croisé un seul, peu importe. La presse nationale est là et les militants récitent des éléments de langage bien travaillés sur ce qu'ils appellent l'invasion migratoire. Mais à la fin de l'hiver, à la fonte des neiges, le col de l'échelle révélera trois corps. Blessing Mathieu, une Nigériane de 21 ans, retrouvée dans les filtres d'un barrage. Mamadou Alpha Diallo, un Sénégalais de 20 ans, tombé d'un rocher. Et un jeune homme au corps trop abîmé pour qu'on l'identifie. Trois jeunes qui avaient miraculeusement traversé le Sahara et la Méditerranée dans une odyssée infernale, misérablement terminée dans les Alpes. Là où des jeunes gens du même âge qu'eux, mais qui ne sont pas à l'origine de ces drames, s'improvisent tout de même, police des frontières, le temps d'un week-end, prêts à repousser les migrants dans la neige.
On border, on nation, stop immigration, génération identitaire, génération identitaire.
Au col de l'échelle, génération identitaire a réussi son coup. Pas un mot de trop, pas de dérapage raciste. Pas devant les caméras, en tout cas. Très pro. En 15 ans, l'ultra-droite s'est métamorphosée. Il faut dire qu'elle revient de loin depuis le 14 juillet 2002. Ce jour-là, c'est le premier défilé du président Chirac après sa victoire contre Jean-Marie Le Pen. À Paris, dans la foule, se font un jeune homme de 25 ans, grand, très maigre, les cheveux ras. Il est nerveux. Il tient à ses pieds un étui de guitare. Il est en face de l'Arc de Triomphe et il attend. Il attend le président de la République parce que c'est à cet endroit que Jacques Chirac doit entamer sa revue des troupes. Il est 10 heures quand le président apparaît. Le jeune homme ouvre alors son étui, en sort un fusil et le braque sur le président. Mais un homme à côté tape dans le canon et dévie son tir. Alors, l'agresseur met l'arme sous sa gorge, mais il est plaqué au sol avant de pouvoir se tuer. Il s'appelle Maxime Brunnery. France 2 dresse son portrait le lendemain.
Des fascistes, des néo-nazis, des négationnistes, comme chaque 1er mai, toute l'extrême droite radicale est réunie à l'arrière du défilé du Front National. Cette année, Maxime Brunnery était parmi les militants, une sympathie extrémiste qu'il affichait sans complexe.
Moi, je l'ai connu à une époque, il était boulot à zéro, habillé avec un bombers. Moi, quand je sais reconnaître des gens qui sont bien ou pas bien, bah, lui faisait partie du groupe pas bien, quoi.
Maxime Brunnery fréquentait les mouvements skinheads, d'abord avec les étudiants du GUD, puis ceux d'Unité Radicale. Ce soir, dans un communiqué, le groupe a apporté son soutien aux tireurs des Champs-Élysées.
Unité Radicale, l'association dont Maxime Brunnery fait partie, c'est l'extrême droite qui ne se cache pas, qui défile en veste noire et brassard, exhibant des tatouages nazis, chantant des airs antisémites. Brunnery écope de 10 ans de prison et 3 semaines après l'assassinat manqué, Unité Radicale est dissoute. Les militants doivent donc se réorganiser. Mais les résultats du FN les font réfléchir. Leurs idées séduisent, elles plaisent tellement d'ailleurs qu'elles arrivent au second tour d'une élection présidentielle. Alors, marre d'être des marginaux, se disent certains, ce n'est pas comme ça que nous gagnerons. Le 30 août 2002 naît donc un nouveau mouvement, le Bloc Identitaire. À sa tête, 3 anciens d'Unité Radicale. Guillaume Luit, royaliste, ancien président du Front National de la Jeunesse. Fabrice Robert, ancien du FN, skinhead et négationniste. Et Philippe Vardon, ancien du FN de la Jeunesse lui aussi, admirateur du nazi belge Léon de Grelle. Robert et Vardon se connaissent bien. Ils se produisent ensemble dans des bars avec leur groupe de rock intitulé « Fraction ». Robert à la basse, Vardon au micro. Et que chantent-ils? Eh bien ça, par exemple, quand ils évoquent notamment les Américains et les Juifs. Voici les paroles. « Ils paieront leur forfait au bout de notre lame. Ils méritent pour leurs crimes une juste punition. Et nous serons vengés lorsque leurs têtes tomberont. » Texte signé Fabrice Robert, fondateur du Bloc Identitaire. Il est au micro de France Culture en 2011.
Nous ne défendons pas simplement l'identité nationale. Nous défendons à la fois l'identité charnelle, donc l'identité des régions, du terroir, l'identité française, mais aussi l'identité européenne, civilisationnelle. Être identitaire, ça ne renvoie pas un dogme, ça ne renvoie pas une idéologie. Vous savez, l'engagement identitaire naît de l'idée que nous sommes le fruit d'un lignage, le maillon d'une chaîne. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons en partie à nos ancêtres, et c'est à nous aujourd'hui de transmettre cet héritage à notre descendance.
Le socle de l'identité européenne, c'est pour cette engeance la race blanche. Et ce qui la met en danger, c'est l'immigration. Mais pour porter ses idées, Robert veut se débarrasser des vieux attributs de l'extrême droite qui rebutent les Français. On a tourné la page du folklore, dit-il. On a viré les trisomiques. Ainsi finit les croix celtiques, adieu les saluts nazis. Et le premier à changer, c'est Robert lui-même. Il se laisse pousser les cheveux, range ses rangers et son blouson noir. Il était skinhead et voilà qu'on le confondrait avec n'importe quel employé de bureau. Le bloc identitaire se dote également d'une branche jeunesse, les jeunesses identitaires, et lance son agence de presse. Parce qu'avant de conquérir le pouvoir, dit Robert, il faut conquérir les esprits. Et pour cela, il y a une stratégie, choquer. Gare de l'Est, Paris, janvier 2004. Pour les SDF, l'hiver est dur. Mais un jeudi sur deux, une association distribue de la soupe. Des bénévoles font le tour du quartier. Mais attention, disent-ils, c'est de la soupe au porc, car ils ne viennent en aide qu'aux Français de souche européenne, disent-ils. Eux, ce sont des membres du bloc identitaire. Et ils s'indignent quand le préfet de police interdit leur maraude, mais ils se réjouissent en voyant les médias parler de leur soupe gauloise, comme ils les appellent. Le patron, c'est donc Philippe Varton. Pour lui, pas de différence entre les islamistes, les Français de parents maghrébins et les étrangers. Qu'ils dégagent. Ils peuvent être intégrés et super gentils, ils n'ont pas leur place sur mon sol. Telle est sa pensée. Et Varton, on ne peut pas le rater à Nice, où il vit. Il est très grand, très costaud, crâne dégarni, puis totalement chauve, accusé d'incitation à la haine raciale, déjà arrêté pour port d'armes. Oui, admet-il, je ne sors jamais sans rien. Il a grandi dans une cité à Nice, une mère rapatriée d'Algérie, un père niçois, une haine grandissante à l'égard de ses voisins noirs et arabes, notamment à cause d'un jour où, raconte-t-il, il est allé chercher le vélo volé de son petit frère et où l'opération a mal tourné, c'est Loukou Mekamember. Au collège, il rencontre les skinheads, il passe au FN de la jeunesse, puis au parti de Bruno Maigret. Et le voilà chef des identitaires niçois, qui organise des maraudes au port, tracte devant les lycées et se présente aux élections. Résultat, cantonal 2005, 1,9%. Municipal 2008, 3%. Et les identitaires continuent leurs expériences électorales au régional avec toujours de très faibles résultats. Puis ils investissent un candidat à la présidentielle en 2012. Mais oui, le voici au meeting à Lyon en 2011.
Merci d'être venu aujourd'hui pour défendre notre identité. Bien encore. J'étais au Kosovo, j'étais dans un pays où les cathédrales comme celle-là sont en ruine car elles ont été dynamitées. J'étais dans un pays où les gens qui veulent vivre selon leur identité sur leur terre sont dans des enclaves derrière des barbelés. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous ne vivrons pas dans des barbelés. Non à l'université, non à l'universalisme, oui à l'identité, stop à l'islamisation.
La candidature de cet homme déjà oublié ne réunit pas assez de parrainage. Exit. La stratégie électorale des identitaires est dans l'impasse. Ils sont bien trop petits pour mener de bonnes campagnes. Ils ne font qu'agacer le FN de Jean-Marie Le Pen. En revanche, leurs opérations médiatiques, elles, sont très efficaces. En 2010, il lance un apéro saucisson-pinard à Paris contre la prétendue islamisation du quartier de la Goutte d'Or. Puis ils entrent dans un couic avec des masques de cochon pour lutter contre la viande halal. Rien ne leur sert de se lancer en politique. Un événement Facebook, masque de porc et port du masque, suffisent pour que la France parle d'eux et de leurs idées. Et en parallèle, ils voient le FN se transformer. En 2011, Marie Le Pen en prend la tête. Une fusée est en train de décoller, dit Varton. Elle a de l'énergie marine et un potentiel immense. S'il y a une personne qui peut porter les idées identitaires au pouvoir, c'est bien elle. Il faut donc se mettre à son service, lui confectionner une arme avec ce qu'ils savent faire de mieux, les identitaires, des coups médiatiques. Mais cette arme, attention, doit être irréprochable. Le FN se dédiabolise, les identitaires aussi. Or, ils sont entachés de plusieurs accusations et d'une condamnation. Il faut donc trouver une nouvelle plateforme. Samedi 20 octobre 2012, Poitiers. Le jour n'est pas encore levé quand plusieurs dizaines de jeunes gens pénètrent sur un chantier du sud de la ville le long de la voie ferrée. Ils se dirigent en silence vers un grand bâtiment en construction. Un par un, ils montent sur le toit. Ce sont des militants identitaires, 70, tous entre 20 et 26 ans. Ils ont fait la route depuis Paris, Lyon, Nice, Toulouse. Et le bâtiment qu'ils envahissent, c'est la mosquée de Poitiers. Ils se tiennent derrière une banderole jaune et noire qu'ils ont déployée à côté du minaret. Elle dévoile le nom de leur nouvelle association, Génération Identitaire. Son logo, un lambda majuscule, symbole de l'armée spartiate, celle qui s'est sacrifiée pour sauver les Grecs de l'envahisseur perse au 5e siècle avant Jésus-Christ. Sur le toit de la mosquée, le porte-parole, Damien Rieux, donne les revendications.
On est venu célébrer le 1600e anniversaire de la bataille de Poitiers. On est venu lancer également notre mouvement Génération Identitaire et nos revendications. On veut un référendum sur l'immigration et un référendum sur la construction de mosquées en France.
Hommage à Charles Martel, certains n'ont pas pu s'empêcher tout de même d'uriner sur des tapis de prière. Mais dans l'ensemble, ce nouveau mouvement est discipliné, efficace. Ainsi apparaît de nouvelles armes pour l'extrême droite française.
On s'est battu pour la reprendre, on se battra pour la défendre, l'identité est à nous. On s'est battu pour la reprendre, on se battra pour la défendre, l'identité est à nous.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie, vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar. Ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête, on trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon. C'est du souffle divin, et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rendent jaloux tout le monde, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance, ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Vous êtes les Trente Glorieuses, les retraites par répartition, SOS Racisme, la diversité, le regroupement familial, la liberté sexuelle et les sacs de riz de Bernard Kouchner.
Nous sommes 25% de chômage, la dette sociale, l'explosion de la société multiculturelle, le racisme anti-blanc, les familles éclatées et un jeune soldat français qui meurt en Afghanistan.
Vous ne nous aurez pas avec un regard condescendant, des emplois jeunes et une tape sur l'épaule. Pour nous, la vie est un combat.
Nous n'avons pas besoin de votre politique de la jeunesse. La jeunesse est notre politique.
Ne vous méprenez pas, ceci n'est pas un simple manifeste, c'est une déclaration de guerre.
Nous sommes demain, vous êtes hier.
Nous sommes la génération identitaire.
Au même moment que l'occupation de la mosquée, Génération Identitaire publie cette vidéo. Tous les militants qui s'expriment ont moins de 30 ans. Leurs ennemis, l'islam et l'immigration. Il suffit de se balader dans la rue pour voir qu'on n'est plus chez nous, dit l'un d'eux. Et ils ont une angoisse. Ce qu'on appelle, ou qu'ils appellent, le grand remplacement, autrement dit la disparition des Français de souche, selon leurs mots. Chaque nouvelle mosquée, chaque nouveau kebab est la preuve de cette captation de l'espace des Blancs par les immigrés et par les islamistes. Et qu'importe que ces envahisseurs soient français, ce sont des Français de papier, disent-ils, des étrangers, enfants, petits-enfants d'étrangers, qui ont peut-être un passeport français, oui, mais qui détestent la France. Tu le sens bien, dit Génération Identitaire, c'est ta conviction profonde, inébranlable, chacun chez soi. Les identitaires se voient comme les lanceurs d'alerte de la guerre civile qui vient et qu'ils tiennent pour certaines. Alors, en attendant l'apocalypse, ils s'organisent. Ils recrutent avec des vidéos travaillées, dynamiques, habilement montées. Fini les obscurs sites internet d'extrême droite, les leurs sont modernes, limpides, avec de belles photos. Leur page Facebook aussi. À Lille, Rouen, Lyon, Nice, ils s'implantent dans des maisons de l'identité, comme ils les appellent. À Nice, Verdon a ouvert Lou Bastion, le bastion en niçois. Il le fait visiter à complément d'enquête en 2012.
Ici,
faites attention à la marche, évidemment.
C'est le patron qui fait la visite.
La grande salle du bastion, et puis deux fois par semaine, les cours de boxe thaïlandaise, des gants de boxe, des protège-dents.
Pourquoi vous faites de la boxe ici?
Bah écoutez, le sport déjà en soi, ça nous apparaît comme quelque chose d'assez sain. Nous considérons que la boxe, dans une période assez troublée, comme nous vivons actuellement, ça peut être un sport qui finalement est peut-être plus utile que le badminton.
Même chose à Lille, au bar La Citadelle. Le critère pour entrer, dit le patron, c'est être un patriote sincère. Pour être français, il faut être européen. Et la base, c'est d'être de race blanche. À Lyon, c'est la Traboule. À l'intérieur, il y a une affiche de Jeanne d'Arc avec une Kalachnikov. Dans ces endroits, on projette des films, on organise des conférences. On s'entraîne à la boxe, donc, au jiu-jitsu aussi, et au Krav Maga. Et on anime des formations à la prise de parole dans les médias, parce que la politique en 2012, dit le porte-parole Damien Rieux, c'est 90% de communication. Après Poitiers, les militants occupent le siège du PS, puis de l'UMP. Toujours sans effraction, sans dérapage. Mais ce ne sont pas les identitaires qui récoltent les fruits des opérations, non. C'est le FN. Bon, publiquement, il condamne, mais il tient le même discours. Le Front National, son taf, c'est la politique, dit une activiste. Et nous, c'est la rue. Et sans que ce soit officiel, on est complémentaires. Mais Marine Le Pen ne veut pas des identitaires chez elle. Trop dangereux pour leur stratégie de normalisation. Et Philippe Vardot en fait les frais. L'ancien skinhead a 30 ans passé, il aspire à une carrière nationale. Alors il adhère au Rassemblement Bleu Marine en 2013. Avant de se faire renvoyer sa cotisation. Oui, car entre-temps, une vidéo est ressortie, une vidéo d'un vieux concert. Devant une foule de crânes rasés qui font des saluts nazis, on y voit Vardon hurler une chanson intitulée « Cyclone Army ». Cyclone, comme le pesticide utilisé dans les chambres à gaz pour assassiner les juifs et les tziganes. Extrait des paroles. « Sieg Heil, Sieg Heil, nous sommes la Cyclone Army, l'armée des skinheads. La guerre et la mort ne nous fait pas peur. » Pensez à Rudolf Hess. Certains, comme Philippe Vardon, traînent leur passé comme un boulet. Mais à Génération Identitaire, au contraire, on soigne son image, on ne laisse rien passer. Et on continue ainsi les opérations.
Filmé depuis un bateau humanitaire, ce navire à la coque bleue, un bateau anti-migrant qui se rapproche. Le ton se veut martial, mais ce bateau n'a rien d'officiel. Il s'agit d'une opération menée par des identitaires, un groupe européen d'extrême droite. À bord, des Allemands, des Autrichiens, des Italiens et plusieurs Français. Régulièrement, ils postent sur Internet des images de leur traversée et ne cachent rien de leurs intentions.
Lorsque nous croiserons des bateaux remplis de clandestins, nous appellerons les gardes-côtes libyens pour qu'ils puissent venir les secourir. Nous coulerons systématiquement les bateaux des passeurs.
Les années passent au rythme des coups de com'. Bateaux anti-migrants, patrouilles anti-racailles dans le métro, missions dans les Alpes, rassemblement devant le Bataclan. Génération identitaire, dit Vardon. C'est le Greenpeace de la résistance française. Tout est politiquement correct, lisse sans accroc. Devant la presse, les dirigeants parlent, les autres se taisent. À Génération identitaire, on n'est pas islamophobe, non. On lutte contre l'islamisation, nuance. On n'est pas raciste. On constate juste un lien entre immigration et délinquance. Et il trouve des relais de poids. Le premier s'appelle Éric Zemmour. Les identitaires l'admirent. Il y a également Yvan Ruffiol, du Figaro. Et au FN, le relais, c'est Marion Maréchal Le Pen. Elle qui estime que le grand remplacement est un constat factuel et que la France est devenue une usine de fabrication de français de papier, c'est elle qui finit par imposer Vardon sur ses listes régionales de 2015. Et voilà l'ancien skinhead devenu conseiller régional. Et qui ne s'arrête pas là. Il entre au bureau national, devient conseiller de Marine Le Pen à la présidentielle, conseiller municipal de Nice et enfin directeur de campagne de Thierry Mariani au régional de cette année. Le FN a besoin de jeunes cadres rompus à la communication. Génération identitaire lui en offre des dizaines. Ce que l'on veut, dit le porte-parole Damien Rieu, c'est former une génération de cadres. Et avec la nouvelle respectabilité des identitaires, le FN ne s'interdit plus de piocher chez eux. À la Traboule, dans le bar lyonnais, au-dessus des verres, on a mis une photo de Marine Le Pen avec une dédicace. Pour la Traboule, très cordialement. Damien Rieu suit l'exemple de Vardon. Il est embauché à la mairie FN de Beaucaire, puis par Marion Maréchal en PACA, par Gilbert Collard à l'Assemblée, puis par l'eurodéputé Philippe Olivier. Et il finit par être investi au départemental dans la Somme. Citons également Julien Langella, l'un des fondateurs, engagé par une mairie FN. Pierre Larty, responsable de la section parisienne, engagé par le président RN du Conseil régional des Hauts-de-France. Thaïs Descuffon, porte-parole, embauché à la communication du porte-parole du RN Sébastien Chenu. Autrefois infréquentables, les identitaires sont maintenant devant le parti de Marine Le Pen, grâce à leur communication irréprochable. Mais quand on gratte le vernis, le fond a-t-il changé? David Harrison, journaliste à Al Jazeera, a mené sa propre enquête. Il en parle sur France 3 en décembre 2018.
Bon, alors, c'est qu'on avait remarqué qu'il y avait une croissance de l'extrême droite et on voulait faire une enquête sur ça. La France était particulièrement intéressante parce qu'on avait vu Marine Le Pen. Elle avait très bien fait dans les élections présidentielles. Alors, d'abord, il fallait découvrir un groupe de l'extrême droite. Génération identitaire, ils avaient fait beaucoup de progrès, ils avaient une grande croissance et on a infiltré la génération identitaire.
Une échoppe a ouvert ses portes en 2016, rue des Arts, à Lille, derrière l'Opéra. Il n'y a pas de devanture. Il faut être informé pour savoir que c'est le local de la Citadelle, le bar identitaire lillois. Pour entrer, on sonne à un interphone, on donne son nom, on passe une petite cour et la salle est là, au fond. Le patron, c'est Aurélien Verassel. Il a un peu plus de 30 ans, de belles chemises et des pulls en col V cachent ses tatouages celtiques. Il a été condamné 6 fois, violence aggravée, violation de domicile, usage d'une arme et même détention et importation de substances explosives. Il a travaillé pour le FN dans les Hauts-de-France, lui aussi. Le week-end du 2 septembre 2017, c'est la braderie de Lille. Aurélien Verassel tient un stand devant son bar. Un jeune homme approche. « C'est vous, Génération Identitaire ? J'ai entendu dire que vous aviez un stand. »« Oui, on a même notre bar, » lui répond Verassel. « Je peux te faire visiter, si tu veux. » Et le jeune homme entre avec le patron donc, dans la maison identitaire lilloise. C'est un endroit assez chaleureux, une belle table en bois, de grands fauteuils en cuir. Au mur, il y a un drapeau jaune avec un lion flamand. Le drapeau de Flandre, Jeanne d'Arc dans un coin et un petit buste romain. Verassel ne le sait pas, mais le jeune homme à qui il parle a une caméra cachée. C'est un journaliste d'Al Jazeera, Et c'est le début de son infiltration de Génération Identitaire, dont il fera un long reportage intitulé « Génération Hate ». Pendant 6 mois, le reporter partage les soirées des militants. Dans ce bar, pas le droit de prendre de photos, encore moins de filmer. Car derrière la façade aseptisée de Génération Identitaire, à l'abri du monde extérieur, l'extrême droite reprend les habitudes qu'elle ne doit absolument plus montrer. Des jeunes gens se vantent, par exemple, d'avoir cassé le nez d'un arabe, d'en avoir poursuivi d'autres en les traitant de sales bougnoules et en hurlant « Sikh Heil ». Et on entend un autre dire ceci.
Et je dis à ma mère, je fais « Maman, tu vas pas au marché d'Oisem, c'est moi qui y vais. Je vais là-bas, mais je te fais un carnage. Charlie Hebdo à côté, c'est de la pisse de chien. Marché d'Oisem, c'est où il y a tous les gnoules de l'île qui vont. Tu voles un dimanche en voiture, mais tu fais un bordel. » Tout ça, merde.
Ok, d'accord.
Fond de cinquième.
Là, t'en vas l'air
pas. Pour le peu, je meurs pas. Pendant le carnage, hop, j'en refais un autre.
Ah non, mais je te jure, quoi.
Les 10 et 11 mars 2018 à Lille, c'est le 16e congrès du parti. Et certains participants sont tentés de passer boire un verre au bar identitaire en fin de journée. Il y a là 3 videurs à l'entrée et d'autres dans la cour intérieure qui vérifient les identités. Car il ne faut pas que la visite de membres du FN à la Citadelle s'ébruite. Mais le journaliste les filme. Et là, on voit Éric Dilize, conseiller régional des Hauts-de-France, sa femme, Sylvie Godin, députée européenne. Il y a aussi Christelle Le Chevalier, la remplaçante de Marine Le Pen à son poste de députée européenne en 2017. La plupart des frontistes sont identitaires, dit-elle dans le bar. Simplement, on a une ligne qui nous demande d'éviter de suivre la ligne identitaire. Il y a également Frédéric Chatillon, très proche de Marine Le Pen, dont la société de communication travaillait pour le FN. Un homme qui sera condamné à 30 mois de prison et 250 000 euros d'amende dans l'affaire du financement des campagnes du FN. Il vient avec son ami Nicolas Crochet, lui aussi proche de Marine Le Pen, expert comptable du parti, qui sera condamné, lui, à 2 ans avec sursis et 40 000 euros d'amende dans la même affaire. Il est dans la cour avec le journaliste et l'eurodéputé Sylvie Godin. Sujet de conversation, la remigration, l'expulsion des individus d'origine extra-européenne.
Oui, mais est-ce que le Front dit rémigration et...
Bah oui, ça se fera. Bah, s'engage, ça se fera. Si on le fait gentiment, ça sera gentiment.
Et si ça se fait pas gentiment?
Bon, on l'aura dans le...
Ouais, comme à chaque fois.
On est d'accord? Moi, je te promets pas la victoire, hein. Je te dis que nous, on est en résistance. Sylvie?
Putain, je suis battu depuis 30 ans pour ça.
Paris, 3 mars 2021. Le Conseil des ministres estime que Génération Identitaire promeut une idéologie incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination et qu'elle agit comme une milice privée. Un mois et demi plus tôt, le mouvement avait lancé une opération comme au col de l'échelle, mais dans les Pyrénées cette fois. Avant ça, la police avait abattu un homme à Avignon. Il menaçait des passants avec une arme à feu, un blouson Génération Identitaire sur le dos. Quelques mois plus tôt, un ancien militaire était arrêté à Limoges, soupçonné de préparer un attentat contre des juifs. Chez lui, on avait trouvé des explosifs, des fusils et des affiches de « Génération Identitaire ». Ainsi que le manifeste de Brenton Tarrant, le suprémaciste qui a tué 51 personnes dans les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019. Alors, le mercredi 3 mars, le Conseil des ministres dissout l'association. Les identitaires avaient protesté 2 semaines avant. Ils étaient quelques centaines sur la place d'Enfer Rochereau à Paris. « Je défends juste mon peuple », disait quelques pancartes. « Lui aussi, vous l'auriez dissous », demandait d'autres en montrant un poilu au Jeanne d'Arc. Dans la foule, il y avait un homme grand, très maigre, les cheveux au ras. Il a changé tout de même depuis 20 ans, depuis le 14 juillet 2002. Maxime Brunery, celui qui a essayé de tuer Chirac, regarde les jeunes militants identitaires. Il se promène parmi eux, il reprend leur slogan. Ce jour-là, il n'a pas pris son étude guitare.
Voilà que ça recommence.
partout, partout les discours sont les mêmes. Étranger est la cause de nos problèmes. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, ce n'était qu'un répit. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, ce n'était qu'un répit. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, sur la douce France. Voilà, voilà, ça commence. La mémoire, on a choisi l'oubli. Dehors, dehors, les étrangers. C'est leur remède des hommes civilisés. Crois l'on garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Crois l'on garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Voilà, voilà.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, génération identitaire, dont nous parlons avec notre invité Jean-Yves Cambu. Bonjour.
Bonjour.
Politologue, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, vous êtes spécialiste de l'extrême droite, auteur avec Nicolas Lebourg du livre intitulé « Les droites extrêmes en Europe » publié en 2015 au Seuil. Je ne sais pas si vous avez entendu le flash de 15h sur France Inter. Sinon, je vous dis exactement ce qu'annonçait Laetitia Gaillet. Gérald Darmanin veut la dissolution de la Ligue de Défense Noire Africaine. Le ministre de l'Intérieur juge l'organisation raciste, une association qui appelle à la discrimination et à la haine. Alors cette Ligue se définit sur les réseaux sociaux comme un mouvement révolutionnaire pour la défense des droits des afro-descendants et des Africains. Près de 300 000 personnes sont abonnées à sa page Facebook et l'annonce de cette future dissolution est liée aux violences de ce week-end à Val-de-Reuil. Plusieurs dizaines de personnes avaient envahi la mairie. Ce qui fait écho, mais de l'autre côté, en conflit, à génération identitaire. Quel est donc ce tissu social qui se déchire ?
C'est un tissu social qui est travaillé par des pulsions de repli communautaire très fortes et où l'idéal républicain, peut-être parce qu'il n'a pas su s'incarner suffisamment dans le concret de l'ascension sociale, du libre accès à l'éducation, à tout ce qui contribue à la vie quotidienne, est aujourd'hui remis en question par des gens, singulièrement par de jeunes gens, qui pensent qu'en fait, la solution à leur bonheur personnel est le repli sur une communauté, qu'elle soit d'origine ethnique ou religieuse.
Alors, génération identitaire est dans cette logique-là, évidemment. Dissoute le 3 mars dernier, 6 mois plus tard, est-ce que cette dissolution a été efficace ? Est-ce qu'on sait ?
J'ai, moi, une objection de fond aux dissolutions. Quel que soit le mouvement qu'elle touche, c'est que, en fait, même si en droit français existe un délit de reconstitution de ligue dissoute, ce qui veut dire qu'il est interdit de recréer sous un autre nom un mouvement dissous s'il y a une continuité d'idéologie, une continuité de dirigeants, eh bien vous ne pouvez pas le faire et c'est effectivement puni ça. Mais en fait, il est très très facile de contourner cette interdiction et généralement, un rare, plus exactement, sont les mouvements dissous qui n'ont pas auparavant échafaudé un plan B qui leur permet, après un temps de latence, et c'est ce qui s'est passé avec Unité Radicale, de ressurgir sous une autre forme. Donc, les dissolutions sont des actes politiques, il faut le savoir. Ils marquent, à un moment donné, une volonté gouvernementale, un signal gouvernemental de vouloir lutter contre telle ou telle idéologie, mais dans la pratique, et c'est le cas pour d'autres groupes, je pense à l'œuvre française dissoute en 2013, par exemple, bah, on a effectivement... Alors, une réduction des effectifs, oui, incontestablement, la dissolution a un but dissuasif aussi, mais ça ne fait pas cesser pour autant les organisations.
Qui ont probablement une stratégie pour faire parler d'elles dans cette année présidentielle, d'élections présidentielles, j'imagine.
Alors, lorsque j'ai rencontré les dirigeants de Génération Identitaire 48 heures après le décret de dissolution, ils étaient en train de réfléchir à effectivement une stratégie de repli qui était a priori sur les réseaux sociaux. Ils étaient très conscients du fait que toute tentative de recréer un mouvement qui aurait une visibilité dans les manifestations, par exemple sur la voie publique ou par des conférences ou en tout cas tout type d'activité publique, risquait de leur valoir de gros ennuis au motif que j'ai énoncé auparavant, le délit de reconstitution de Ligue dissoute, mais évidemment, ils n'avaient pas pour autant l'intention de raccrocher les gants, donc présence sur les réseaux sociaux, et puis aussi une continuation d'une stratégie qui en fait était déjà entamée avant la dissolution, qui est que les meilleurs éléments, ceux en tout cas qui ont quelques capacités et qui souhaitent s'investir durablement en politique, eh bien aillent dans la formation qui est la plus proche de leurs idées. C'est peut-être en train de changer, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est-à-dire au Rassemblement National, soit comme militant, soit comme collaborateur d'élus ou de groupes dans les conseils régionaux ou au Parlement européen, soit comme candidat.
Et qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui est en train de changer ?
Ce qui est en train de changer, c'est l'attraction Éric Zemmour.
Ah, vous allez vous en parler, effectivement.
Cette attraction, pour l'instant, se résume au domaine des idées, de l'adhésion aux idées. On voit ça très bien sur les réseaux sociaux, en regardant les comptes Facebook, Twitter, des intéressés. Mais envisageons déjà l'hypothèse où Éric Zemmour confirmerait son intention de concourir pour la présidentielle de 2022. Je pense qu'il aurait, à ce moment-là, derrière lui, un certain nombre de cadres identitaires, pas seulement d'ailleurs des anciennes générations identitaires, la mouvance identitaire c'est plus large que génération, qui pense aujourd'hui que Marine Le Pen a un peu gommé les aspérités, un peu trop gommé les aspérités, qu'elle ne veut pas parler frontalement du grand remplacement, qu'elle ne veut absolument pas parler de remigration. Marine Le Pen l'a redit hier à Fréjus, pour elle la France c'est des gens de toute origine et de toute religion, condition qu'ils s'assimilent. Or ça, c'est un postulat inverse de celui de la mouvance identitaire, qui explique que de toute façon, que vous le vouliez, enfin vous pouvez le vouloir à 1000%, si vous n'êtes pas européen, vous ne deviendrez jamais européen. Donc, à un moment donné, il va y avoir, une petite compétition pour savoir où iront les cadres identitaires qui ont l'intention de prêter la main à la campagne.
Des gens qui sont adeptes d'une sorte de théorie qui serait celle de l'ennemi intérieur, qui avait été inventée par Maurras contre une autre partie de la population. Sont des idées qui montent, qui montent beaucoup. Qu'est-ce que vous sentez de cette idée-là, de la croissance de cette idée-là, selon laquelle notre civilisation blanche européenne serait menacée par l'islam, par les musulmans, par leur démographie, enfin, tout ce que vous voulez, quoi.
Alors, c'est pas nécessairement formulé en ces termes-là, mais il est très clair que depuis les attentats de 2015, et depuis d'ailleurs l'attentat de Nice en 2016, qui a une particularité par rapport à ceux de 2015, enfin en tout cas par rapport à celui de Charlie Hebdo, c'est qu'il a touché une foule rassemblée dans une ville de province, un jour de fête nationale. Ouais. Eh bien, depuis ces deux événements, et dans le contexte global de la montée de la visibilité de l'islam politique, facteur qu'il ne faut pas négliger, il y a effectivement, dans la population française, cette idée que une partie, en tout cas, des gens qui sont culturellement musulmans, j'insiste, parce qu'il y a, plein de palettes dans le fait d'être musulman, eh bien que ces gens-là sont au fond des ennemis de l'intérieur.
C'est ça,
le seul problème, voilà. Le seul problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que pour les adeptes du grand remplacement, il est clair que aujourd'hui, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que nous sommes déjà submergés. C'est ce que dit Renaud Camus, en l'occurrence, qui est l'inventeur, en quelque sorte, du concept, en tout cas dans l'espace francophone. Et donc, si on est déjà submergé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on se contente d'arrêter l'immigration, qui est la solution prônée par Marine Le Pen, effectivement, on limite pour l'avenir, mais on ne règle pas le passé. D'où la solution de la remigration. Mais sauf que cette solution, quelle personne, un tant soit peu sensée, peut... chercher à se faire élire à une charge élective, même au niveau local, en disant, écoutez, il n'y a qu'une solution. Hein. Toutes les personnes qui sont là, françaises, titulaires d'un titre d'identité français ou étranger, enfin, tout cela, on les renvoie. Personne.
Ben non, bien sûr. On va se retrouver, Jean-Yves Camus, dans 3 minutes après avoir écouté London Grammar, Lose Your Head. I need to love. It's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby. Me now. Jean-Yves Camus, pour dissoudre Génération Identitaire, le gouvernement, rappelons-le, s'est appuyé sur le cas de deux hommes qui projetaient des actions violentes et qui étaient inspirés par les thèses de Génération Identitaire, à savoir un homme arrêté avec une arme à feu à Avignon, un autre avec des armes et des explosifs à Limoges. Les identitaires aujourd'hui et cette mouvance-là représentent-ils une menace terroriste, après tout, indirecte ou indirecte ?
Alors, pour ce qui est de Génération Identitaire, les deux exemples que vous venez de donner sont assez mystérieux, à vrai dire. Dans l'affaire de Limoges, parce que les liens avec Génération Identitaire semblaient assez lâches, et dans celle d'Avignon, parce que le parcours de l'homme est extrêmement sinueux, et se situe au départ au Parti communiste, ce qui n'a véritablement rien à voir. Il n'a pas, pour l'instant, été donné suffisamment d'indications publique de la manière dont il avait évolué idéologiquement. Ce qui a surtout retenu l'attention du gouvernement, c'est le caractère de milice privée qui s'était manifesté lors des opérations du col de l'Échelle et des Pyrénées, lors desquelles, à mon avis, Génération Identitaire a commis l'erreur de donner l'impression, par le port d'une sorte d'uniforme, qu'ils se substituaient aux forces de police ou de la gendarmerie ou de la douane qui sont chargées du contrôle des frontières. Et cela, c'est effectivement une erreur absolument fondamentale. Alors, il y avait peut-être qu'un lointain rapport entre la doudoune bleue et l'uniforme de nos gendarmes, mais en tout cas, il est clair que la volonté d'empêcher des personnes de franchir la frontière usurpait très clairement le rôle que doit avoir un mouvement politique. C'est à la police et à la gendarmerie d'être les seuls gardiens de l'ordre public et donc de la capacité d'un étranger à fouler le sol français. Et donc c'est en quelque sorte le facteur l'erreur de trop, j'allais dire, qui a permis au gouvernement de mettre en route un processus de dissolution qui était déjà dans les starting blocks depuis assez longtemps, mais que les services de renseignement regardent toujours avec un œil, comment dire, avec une double entrée, c'est-à-dire que d'un côté, on se dit qu'à un moment donné, oui, il faut donner un coup d'arrêt, mais d'un autre côté, les services de renseignement craignent, et je pense qu'ils ont raison, le passage d'un certain nombre d'individus particulièrement déterminés à des activités beaucoup plus souterraines, donc beaucoup plus dangereuses. Parce que faut pas se leurrer, un groupuscule qui a quelques centaines d'adhérents, un millier de sympathisants pour Génération Identitaire, c'est un mouvement qui est suivi. C'est un mouvement dont on connaît à peu près là où il faut, le fonctionnement, les points faibles et les points forts. Si ça devient totalement underground, c'est beaucoup plus compliqué.
Bien, merci infiniment Jean-Yves Camus. Je rappelle que vous êtes politologue, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'extrême droite, et je rappelle le titre de votre livre pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin sur cette thématique, « Les droites extrêmes en Europe », publié en 2015 au Seuil. Merci, au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Génération Identitaire, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Louis Audebert.